Don Carson nous visite pour la deuxième fois ici à l'Institut. Il est venu plusieurs fois à Genève dans d'autres contextes. Il est lui-même d'origine canadienne et ses parents étaient missionnaires au Québec, ce qui explique que Don Carson, entre autres, parle le français québécois, bien entendu. J'ai eu d'ailleurs le privilège d'aller et de prêcher dans l'église où son père avait été pasteur pendant de nombreuses années, il y a quelques mois. Il a fait ses études aussi bien au Canada qu'en Grande-Bretagne et actuellement il est professeur du Nouveau Testament à la faculté de Trinité dans la région de Chicago aux États-Unis. Je dois avouer, je suis étonné qu'il ait accepté de revenir une deuxième fois dans un petit institut comme le nôtre, et on se sent très honoré qu'il l'ait accepté, parce que je sais qu'il a de nombreuses invitations. Il est rentré il y a une dizaine de jours, si je ne me trompe. Je n'arrive jamais à prononcer ce nom, mais il le dira lui-même dans un instant, de Uzbekistan. Il était ce week-end dernier à Montréal, après avoir conduit l'aller-retour de 1500 et quelques kilomètres. Et puis, ils ont eu tout juste le temps de faire le linge avant de revenir ici en Europe hier après-midi. Je suis très reconnaissant parce qu'il a pu venir avec son épouse, Joy. Joy, welcome also here to Geneva. We're very glad that you could come. And I'm sure that for those English people, speaking people with us, they'll be very happy to meet you at one or another time during these meetings. Nous avons trois thèmes pendant ces quelques jours. Celui d'aujourd'hui est certes plus controversé. Un autre regard sur l'Église émergente. J'aimerais dire d'emblée que ce n'est pas M. Carson qui a demandé finalement de traiter ce thème. C'est nous qui lui avons demandé. Nous assumons donc par conséquent toute la responsabilité de lui avoir demandé d'aborder ce thème qui certes est un thème qui peut froisser, gêner, mais où il est parfois important d'examiner tout ce qui se passe dans notre monde évangélique avec le filtre et au regard de l'Écriture. Nous estimons donc que c'est une partie de notre responsabilité en tant qu'institut d'examiner, filtrer, critiquer constructivement pour permettre au peuple de Dieu de progresser, d'approfondir la connaissance et de l'Écriture, et de ne pas se laisser, finalement parfois, dévier, ni à droite ni à gauche, par des idées qui sont parfois bonnes, et il y a toujours de bonnes idées, mais aussi par ce qui peut parfois être moins bon. Donc sans autre, je voudrais donc lui laisser la place pour qu'il aborde le premier des quatre exposés sur ce thème donc de l'Église émergente. Merci infiniment.
Privilège de revenir ici à Genève. Commençons avec le mot émergent. Quand j'ai commencé d'écrire sur ce sujet, j'ai découvert que l'expression l'Église émergente, des fois, fait référence à l'Église du premier cycle. Siècle, c'est-à-dire. Ça me prendra quelques jours pour rapprendre le français. Et ensuite, je vais quitter la ville et je vais commencer à oublier encore le français que j'ai appris comme jeune homme. Donc, vous allez avoir assez de grâce envers moi pour être patient quand j'oublie les mots de temps en temps. Par exemple, il y a un livre écrit par un de mes copains avec le titre « L'Église émergente » qui parle en effet de l'Église du Nouveau Testament jusqu'à la fin du premier siècle. Et aussi, parmi mes copains missionnaires, l'Église émergente fait référence plutôt à l'Église à l'Amérique du Sud ou en Chine ou quelques autres endroits, c'est-à-dire pas l'Église de l'Ouest, mais l'Église émergente dans le monde soi-disant francophone, dans le monde missionnaire. Mais pour nous, l'expression l'Église émergente est apparue seulement en 1993. C'était inventé par deux hommes, Mark Driscoll et Brian McLaren. Le premier ne se situe plus dans ce mouvement, mais le dernier est encore un des leaders de ce mouvement. Qu'est-ce qui est compris par cette expression? En effet, ce qui est entendu par cette expression, c'est à peu près ceci. Dans le monde, surtout de l'Ouest, il y a des développements culturels qui sont tellement nouveaux qu'il faut avoir aussi des développements dans l'Église semblables. C'est-à-dire qu'il y a une culture émergente et donc il faut avoir une Église émergente pour y répondre. L'expression n'est pas utilisée dans tous les pays anglophones. En Angleterre, c'est encore plutôt rare. Des fois, en Angleterre, ils parlent de l'Église liquide. L'Église liquide, mais en effet, c'est la même idée, seulement avec une autre expression. Mais je vais parler de l'Église émergente. J'étais à Taipei l'année passée et ils m'ont demandé encore de donner une conférence, un séminaire sur le sujet, l'Église postmoderne, l'Église émergente à Taipei. Et tout d'un coup, on se rend compte du fait que ces mouvements qui sont inventés soit en Europe, soit en Amérique, tout d'un coup, ils sont un peu partout. Sur la globe aujourd'hui, n'est-ce pas? Et j'aimerais commencer donc avec quelques caractéristiques qui sont centrées sur ce mouvement. Il faut dire que ce mouvement est en réalité pas tout simplement un mouvement simple, mais tout un paquet de mouvements en réalité, avec quelques caractéristiques en commun. Et même plusieurs de leurs leaders, comme McLaren, n'aiment pas parler d'un mouvement, mais d'une conversation. C'est-à-dire, ce n'est pas un mouvement, ils disent, c'est seulement une conversation. Mais en réalité, ils ont leurs conférences, ils ont leurs livres, ils ont leurs leaders. Il faut admettre quand même que c'est un mouvement, même si on l'appelle une conversation. Il faut dire aussi qu'à peu près 80% de leurs leaders viennent des églises extrêmement conservatrices. Et ils ont découvert que ces églises ne savent pas comment parler avec la nouvelle culture. Ils sont tellement éloignés de la culture que en partie comme réaction, ils essaient de trouver une autre façon, une autre manière d'agir, une autre épistémologie pour mieux répondre à ces développements dans la culture. Et donc, en partie, c'est une réaction. Les leaders parlent d'une autre grande réforme, mais en réalité, c'est une réaction contre des développements qu'ils ont découverts sont extrêmement difficiles du point de vue des églises qui sont conservatrices du point de vue culturel. Le mot utilisé encore, pas beaucoup en France, mais dans le monde anglais. Le mot qui décrit ces développements, c'est encore le mot postmodernisme. Il faut dire que dans les cercles intellectuels en France, et je suppose dans la Suisse aussi, le mot postmoderne ou postmodernisme n'est presque plus utilisé. Dans 2001, un livre publié par les presses universitaires de France avec des analyses de la culture conduites par à peu près 22-23 érudits, un livre de 546 pages, n'a pas utilisé le mot postmoderniste une seule fois à travers tout le livre. 2001, c'est déjà dépassé, déjà. Mais dans un autre sens, le mot postmoderne est utilisé dans les églises, dans la vie populaire et dans le monde anglais avec des significations qui ne sont pas toujours exactement pareilles aux significations qu'on trouve dans quelques autres pays. Donc, il faut prendre soin comment on utilise ce mot, franchement. Pour les Français, le postmodernisme était tellement lié à François Lyotard, Derrida, Michel Foucault, et leurs idées sont tellement dépassées maintenant que franchement, postmodernisme n'est plus en vue, en effet. Mais quand même, dans le sens utilisé dans l'Amérique, le mot postmoderne ou le postmodernisme décrit encore assez bien ce que nous trouvons dans l'Ouest et non pas tout simplement dans l'Ouest. Et il faut prendre soin comment on utilise ces mots. Donc, je vais commencer avec une analyse de postmodernisme qui me prendrait les prochaines 60 minutes à peu près pour mieux comprendre comment ce mot est utilisé dans le mouvement de l'Église émergente. Postmoderne, c'est-à-dire quelque chose après le modernisme. Donc il faut comprendre le modernisme. Et en effet, il faut comprendre le pré-modernisme, le avant-modernisme. Disons que le modernisme commence avec la Renaissance, à peu près. Avant cela, dans le pré-modernisme, la plupart du monde dans l'Ouest acceptait le fait que Dieu existe, qu'il connaît toutes choses, et donc que notre connaissance est toujours un petit pourcentage de ses connaissances complètes. C'est-à-dire, lui, il est omniscient, tout ce que nous savons qui est vrai est en réalité seulement une petite partie de tout ce qu'il sait. C'est-à-dire, toutes nos connaissances se dépendent de sa connaissance parfaite. Donc, toute notre connaissance se dépend en réalité de la révélation, soit dans la nature, soit par son Saint-Esprit, soit par la Bible. Tout ce que nous savons, en réalité, ça doit venir de lui parce que c'est lui seul qui connaît toutes choses. Il y avait des athées, sans doute. Il y avait des personnes qui ne croyaient pas en Dieu de cette façon chrétienne. Mais quand même, la plupart des gens dans l'Ouest avaient ces préconceptions. Et donc, dans le domaine de l'épistémologie, c'est-à-dire comment comprendre comment nous connaissons, comment nous savons de quoi, comment nous connaissons les faits, dans le domaine de l'épistémologie, en réalité, tout se dépendait de Dieu lui-même. Mais dans le temps de René Descartes et d'autres érudits, on s'apercevait de plus en plus qu'il y avait des athées ou des érudits qui ne croyaient pas en Dieu d'une façon chrétienne, au moins. Et pour mieux avoir une apologétique qui faisait du bon sens à ces érudits, René Descartes se donnait à tout douter afin de découvrir une fondation, un fondement certain sur lequel il pouvait tout baser. Et en réalité, chaque étudiant aujourd'hui apprend ce qu'il a dit. Son formule était « Je pense, alors je suis ». Pour lui, c'était lié à toute une philosophie que nous n'avons pas besoin d'examiner ici. Et en réalité, il ne faut pas blâmer pauvre René Descartes pour tout ce qu'on appelle le modernisme. Et en réalité aussi, il y avait de bonnes choses dans le postmodernisme, comme il y avait de bonnes choses dans le prémodernisme. Et il y avait des difficultés aussi, surtout parce que nous sommes pécheurs et nous pouvons tout corrompre, soit le postmodernisme, soit le modernisme, soit le prémodernisme. Ça ne fait rien, on peut tout corrompre. Ça prend seulement un petit peu de temps. Mais ce que Descartes a souligné, je suis. Je pense, alors je suis, était un bon point de départ pour cette analyse. C'est-à-dire, le modernisme était contrôlé par ses idées. Numéro un, je vous donne 6 points. Parce qu'ensuite nous allons examiner comment le postmodernisme change ou déplace ou modifie ces 6 points. Le modernisme, en comparaison avec le prémodernisme, commence avec le « je ». Je pense. Ça ne commence plus avec Dieu. Ça commence avec moi. Donc Dieu devient en effet une implication de ce que je pense. Il devient quelqu'un que j'évalue. Donc, toute mon apologétique va changer, nécessairement. Je ne commence pas avec la présupposition de Dieu, avec la révélation de Dieu, mais je commence avec moi. Je pense. Donc, la distinction entre le sujet et l'objet que nous trouvons à travers l'apologétique du modernisme est basé en fin de compte sur le fait que René Descartes lui-même commence avec le « je ». Je reviendrai à ce point samedi quand nous examinerons ensemble l'évangélisation des postmodernes. Deuxièmement, Le modernisme était basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le fondationalisme. Le fondationalisme, c'est-à-dire il y a des fondements, des fondations sur lesquelles nous bâtissons toute notre compréhension de Dieu ou de l'histoire ou de notre discipline. Il y a des données, des fondements sur lesquels nous basons toute chose. Pour Descartes, le fondement suprême était la formule « je pense, alors je suis ». Mais dans chaque discipline, il y a des fondations qu'il faut accepter et ensuite sur lesquelles nous bâtissons nos recherches et nos raisonnements et ainsi de suite pour tout construire une théorie. Soit dans la chimie, la physique, mathématiques, l'histoire, il y a des données qu'il faut accepter en réalité. Et ces données, on ne peut pas se douter de ces données. On ne peut pas se douter d'elles, c'est-à-dire ces choses sont pour nous les fondations de toutes choses. Par exemple, dans les théories marxistes de l'histoire, c'est déjà donné que les fondations de tout bouleversement dans la culture sont des choses économiques et sociales, sont des structures sociales et économiques. Donc, si un jeune homme ou une jeune femme qui était autrefois marxiste dans la Russie, voulait aller à l'université, mais était chrétien, chrétienne, et avec une assez grande foi publique. On disait, en effet, parce que ces personnes n'avaient pas les bonnes fondations pour cette discipline, ils n'avaient pas le droit de prendre leur place dans les universités. Ils croyaient en Dieu. Donc, ça change toute chose. Ça change les fondements, ça change les fondations. Donc, ces personnes manquent les fondements nécessaires pour travailler dans cette discipline. Donc, on les excluait de l'université. Et, en effet, nous trouvons dans chaque discipline les données qu'on n'a pas le droit de douter. Donc, premièrement, ça commence avec « je ». Deuxièmement, c'est basé nécessairement sur des fondements, des fondations. Troisièmement, c'est basé toujours sur un système de méthode assez rigoureux. Méthode. Fondation, méthode, et ensuite nous découvrons la vérité. Donc aujourd'hui, si quelqu'un écrit une dissertation, une thèse doctorale de troisième cycle, on analyse la thèse, non pas tout simplement du point de vue de résultat, mais aussi du point de vue de méthode, pour être certain que c'est une approche rigoureuse, n'est-ce pas? Donc, ça prend le fait que je commence avec « je », avec « moi ». Et deuxièmement, ça prend une fondation qui est acceptée. Et troisièmement, ça prend des méthodes. Et ensuite, avec cette fondation et ces méthodes, nous essayons de produire la vérité. Et si c'est véritablement la vérité, c'est la vérité pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout le monde qui accepte ces fondations et ces méthodes, et ensuite c'est publié dans nos presses universitaires, et il y a une avance dans notre connaissance, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Troisièmement, cela présuppose aussi que la vérité est achevable, c'est-à-dire qu'on peut découvrir en réalité la vérité, et que cette découverte est bonne. C'est-à-dire, présupposée dans le modernisme est la prétention que ce que nous découvrons, c'est en réalité la vérité publique, la vérité objective, et que cette découverte est achevable et bonne. Et pour la plupart de nous qui ont au moins 40 ans, 45 ans, c'est déjà présupposé, n'est-ce pas? Vous me regardez et vous voulez dire, en effet, bien, c'est bien évitable, hein? C'est bien inévitable, c'est pas mal, encore, la parole me manque en français, obvious, évident, oui, pardon. Mais pour ceux qui ont moins de 30 ans ici, probablement vous allez dire, voyons, une des erreurs de modernisme qu'il faut absolument rejeter aujourd'hui. Mais cela indique encore le changement entre le modernisme et le postmodernisme. J'y reviendrai dans quelques instants. Quatrièmement, la vérité, donc, pour le moderniste, n'est pas tout simplement public et achevable et bonne, mais elle est transculturelle, transhistorique. C'est-à-dire, la vérité qu'on découvre, c'est la même vérité au Canada qu'en France, ou en Suisse, ou en Chine. La vérité, c'est la vérité, c'est transculturel. Historique. Si c'est véritablement la vérité, c'est la vérité du premier siècle, c'est la vérité du 21e siècle, ça ne fait rien, c'est la vérité, en fin de compte. C'est-à-dire, notre idée de vérité dans le monde postmoderniste ne se dépend pas d'une certaine culture ou d'un certain individu, mais c'est la vérité publique. C'est pour cette raison que nous pensons que nous pouvons avancer dans nos découvertes, dans la science, par exemple, ou dans notre étude de l'histoire ou de la philosophie, parce que nous découvrons une vérité, et si en réalité c'est la vérité, ça devient en effet la nouvelle base pour les découvertes davantage, n'est-ce pas? Et sixièmement, finalement, le modernisme est devenu de plus en plus naturaliste. Le modernisme n'a pas commencé avec le naturalisme. Après tout, René Descartes était catholique. Catholique dévoué. Il voulait avoir une apologétique pour répondre aux érudits qui étaient de plus en plus athées. Ce n'est pas qu'il voulait tout détruire, c'est plutôt qu'il voulait répondre dans son temps au développement culturel qu'il découvrait lui-même en Europe. Mais de plus en plus, le monde moderniste est devenu naturaliste aussi. C'est-à-dire, tout ce que nous découvrons, tout ce qui existe, c'est la matière, l'énergie, l'espace, le temps. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, il y a bien des modernistes qui ne tiennent pas à ce point dernier, mais en réalité, un grand pourcentage de nos scientistes aujourd'hui, par exemple, de nos hommes et femmes de science, prennent en effet cette position, n'est-ce pas? Et même quand nous faisons nos études dans le monde dans la discipline, par exemple, de l'histoire, dans 1830 ou 1850, aux États-Unis, par exemple, dans n'importe quelle université, ça ne faisait rien, dans n'importe quelle université, ceux qui étudiaient l'histoire parlaient assez aisément de ce que Dieu faisait d'un sens providentiel, c'est-à-dire d'un sens providentiel. Il était prêt à parler de la providence dans l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a aucune université aux États-Unis qui permettrait à un étudiant qui écrivait sa thèse du troisième cycle de parler de la providence. Parce qu'il y a de plus en plus une distance entre la discipline et une prétention de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, le monde est devenu de plus en plus naturaliste, n'est-ce pas? Le postmodernisme, donc, c'est-à-dire ce qui arrive après le modernisme, a modifié ou renversé chacun de ces six points. Commençons avec le je. Cela continue. Mais il y a des implications de cette observation qui sont pas mal différentes. C'est parce que le je, après tout, le moi, le je est toujours fini. C'est-à-dire, je n'ai pas le don d'omniscience. Je parle toujours d'un point de vue. Je suis, en fin de compte, un Canadien. Anglais, mais j'ai été élevé dans un monde bilingue, malgré le fait que j'ai pas mal oublié le français que j'ai appris. Et j'ai étudié la chimie, la mathématique. J'ai 59 ans. J'ai des caractéristiques qui me placent dans la culture, dans le monde, dans l'histoire. Je vis aujourd'hui dans le 21e siècle, pas dans le 18e ou dans le 19e ou dans le 5e. Ça me place, n'est-ce pas? Le fait donc que toute notre compréhension commence nécessairement avec le « je ». signale donc que nous avons toujours un point de vue. Je ne suis pas africain. Je ne suis pas européen, malgré le fait que j'ai demeuré pour 9 ans en Europe. Je ne suis pas européen, en fin de compte. Je ne suis pas femme. Donc, j'ai un certain point de vue, et vous tous aussi, vous avez vos propres points de vue. Donc, commençant avec le « je », souligne le fait pour le postmodernisme que toute connaissance, toute prétention de connaissance est nécessairement limitée à ce fameux « je ». Ou, plutôt, si vous préférez, « nous ». Notre groupe dans la société ou dans la culture, notre race, notre groupe dans l'histoire, mais nous avons un point de vue, tout simplement. Et à ce point, il faut reconnaître qu'il y a bien des érudits qui n'aiment pas la distinction entre modernisme et postmodernisme, parce que ces érudits prétendent que le postmodernisme est seulement le modernisme qui est maintenant plus développé. Ça commence avec les mêmes observations. Ça commence avec le jeu. Ça ne commence pas avec Dieu. Ça commence avec l'indépendance de l'individu. Mais le postmodernisme, en commençant avec l'indépendance de l'individu, souligne nos limitations, souligne nos limites, le fait que nous sommes finis. Nous ne sommes pas infinis, mais finis. Mais en réalité, c'est en effet un développement assez tardif de modernisme. Ce n'est pas un nouveau développement, c'est encore le modernisme bien développé. Deuxièmement, les fondations présupposées par le modernisme sont complètement disparues dans le postmodernisme, parce que ces fondements, disent les postmodernistes, sont toujours les créations de ces fameux « je » ou « nous ». Ces fondements ne sont pas indépendants, après tout. Ces fondations ne sont pas indépendantes. Ces fondations elles-mêmes sont le résultat de nos prétentions, de notre épistémologie, de notre culture, de nos présuppositions. Et donc, elles n'ont pas de validité, elles n'ont pas d'indépendance du tout. Elles sont elles-mêmes les résultats de notre culture. Donc, les présupposés de l'histoire, les présupposés de la chimie, la présupposée de même nos sciences sont nécessairement les créations de nos érudits, n'est-ce pas? Après tout, le médecin qui travaille en Chine parle de yin-yang et parle d'expressions que nous ne connaissons pas dans l'Ouest. Ils ont des méthodes d'approche et tout cela qui viennent en effet de notre science. Notre science n'est pas indépendante, donc notre science est elle-même la création de notre culture. Donc il n'y a pas de fondation sur lesquelles nous pouvons tout construire. Et de même, les méthodes que nous avons, après tout, les méthodes que nous avons sont elles-mêmes des créations, n'est-ce pas, de notre culture, de notre discipline. Par exemple, dans le monde biblique, nous parlons de la critique rédactionnelle, ou de la critique narrative, ou de la critique littéraire, ou de la critique... Ça ne fait rien. Toujours de nouvelles méthodes, n'est-ce pas? Et on est supposé de les apprendre, de les utiliser, tout cela. Mais en réalité, il y a des érudits dans le monde biblique qui utilisent ces méthodes ou qui les remplacent. Ces méthodes n'ont pas une existence indépendante. Elles sont elles-mêmes les résultats de nos découvertes, de nos approches, de notre étude, n'est-ce pas? Donc, les fondations ne sont pas indépendantes, les méthodes ne sont pas indépendantes. Et donc, quatrièmement, la vérité n'est pas achevable. C'est-à-dire, on ne peut pas découvrir la vérité publique, transculturelle, transhistorique. C'est la vérité pour moi. C'est la vérité pour ma discipline. C'est la vérité de mon point de vue ou de ma place dans l'histoire. C'est la vérité pour ceux qui sont chrétiens ou ceux qui sont chrétiens dans l'Ouest ou quoi que ce soit. C'est la vérité d'une position dans ce point dans l'histoire, mais ce n'est pas transculturel, ce n'est pas transhistorique et ce n'est même pas une bonne chose de penser que la vérité dans ce sens public est achevable. Ce n'est pas une bonne chose, c'est plutôt l'orgueil. C'est plutôt une position d'humilité quand nous reconnaissons que ce que nous appelons la vérité, c'est la vérité pour nous. Si nous disons que ça doit être la vérité pour tout le monde, voilà le début de la guerre. Le début de haine, le début de l'impérialisme, parce que nous voulons que tout le monde adopte notre point de vue. Donc, la vérité dans ce sens n'est pas achevable et n'est pas bonne même. Et tout d'un coup, nous reconnaissons comment le postmodernisme apparaît quelque chose d'admirable, avec une moralité supérieure. N'est-ce pas, que le modernisme? Mais quand même, le sixième point, le modernisme est devenu de plus en plus naturaliste avec le temps, avec le passage du temps. Le postmodernisme devient de plus en plus, je ne sais pas quoi, comment dire cela d'une autre façon, devient de plus en plus spirituel. Maintenant, ce que c'est la spiritualité, ça c'est toute une autre chose. Nous y reviendrons. Mais quand même, le postmodernisme est plus spirituel en général que le modernisme aujourd'hui. C'est-à-dire, le postmodernisme est tellement ouvert à d'autres façons d'apprendre ou de connaître que ce n'est plus la science ou ce n'est plus tout simplement la pensée linéaire ou ce n'est pas tout simplement une méthode directe ou scientifique. Mais aussi les intuitions, les affections, les impressions, le monde spirituel autour de nous, soit de Dieu ou soit des cristals qui ont leurs vibrations, ça ne fait rien, c'est toute la spiritualité. Mais quand même, tout d'un coup, nous sommes venus à la place où le monde tout simplement naturaliste n'attrait pas les postmodernes. Les postmodernes sont ouverts à ce qu'on peut appeler le spiritualisme, le monde spirituel, n'est-ce pas? Ils se pensent déjà spirituels, n'est-ce pas? Mais cette spiritualité n'est plus liée comme elle est dans le christianisme, dans le judaïsme, n'est plus liée à la moralité, mais à notre expérience intérieure, notre expérience individuelle, notre expérience publique, nos affections, nos intuitions. Donc il n'y a rien de la moralité dans cette compréhension de spiritualité. Mais la spiritualité, quand même, devient de plus en plus populaire, n'est-ce pas? Il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à pied puis disent Oh, moi, je ne suis pas spirituel du tout. Malgré le fait que la spiritualité n'est pas bien comprise, n'est pas bien identifiée, n'est pas bien définie, quand même, la plupart de personnes aujourd'hui seraient fières à dire, n'est-ce pas, oui, je ne suis pas catholique ou je ne suis pas protestant, je n'assiste pas à l'Église, mais je suis spirituel. N'est-ce pas? Eh bien, le postmodernisme, avec ses caractéristiques adaptées ou modifiées de modernisme, nécessairement a des connexions à d'autres caractéristiques. Ça change la moralité, par exemple, ça change l'apologétique, ça change plusieurs choses. Commençons avec la moralité. La moralité dans le monde pré-moderne, dans l'Europe, se dépendait en effet de l'autorité de la Bible ou de l'Église. Dieu a parlé, soit par l'Église, soit par la Bible, soit par le Saint-Esprit. Mais il y a une révélation donnée en fin de compte par Dieu lui-même qui dit en effet ceci est bon, ceci est mal. Voilà la différence dans la pensée de Dieu lui-même. Et même dans le monde moderniste, bien des érudits parlaient, soit Hegel, soit d'autres modernes en France, ou dans le 18e siècle, ou dans le 19e siècle. La moralité était quand même quelque chose de public, quelque chose qu'on peut découvrir. Peut-être ça ne touche pas tous les points mentionnés de la Bible, mais quand même, ne pas voler, par exemple, ne pas haïr, aimer son prochain, des choses semblables, on disait, étaient des points fondamentaux de la moralité pour tout le monde civilisé. Et la civilisation pouvait découvrir ce qui est le bon. Et avec ce sens de ce qui est bon dans l'esprit public, on pouvait passer des lois, on pouvait adopter des règles et tout cela pour le bien de la société, ce qu'on disait au moins. C'est-à-dire, on ne voulait pas dire que la moralité était complètement privée, mais que l'État devait découvrir ce qui est bon pour mettre en place les lois et les règles pour le bien de la société. Mais de plus en plus, on adopte aujourd'hui une attitude de loi positive, c'est-à-dire les lois qui sont passées par nos parlements, par nos conseils, par nos gouvernements. Les lois ont la force de loi seulement parce que nos parlements, nos conseils, nos gouvernements les ont approuvées. C'est tout. Ce n'est pas qu'il y a une moralité à découvrir dans un monde naturaliste ou dans un monde postmoderniste où il n'y a pas une vérité publique pour tout le monde, mais une vérité pour notre groupe, en effet. Ce que le gouvernement essaie à faire, c'est de découvrir ce que la majorité veut adopter, ce que la majorité, même s'il y a bien des groupes différents dans la société, si la plupart aujourd'hui veulent adopter une telle et telle position envers, disons, l'homosexualité, eh bien, c'est bien, on change la loi, le monde s'adapte. Il n'y a pas une question de moralité publique ou essentielle ou attachée à la divinité, mais c'est tout simplement le vœu de notre pays, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une vision de la loi positive. Et donc, si autrefois se coucher avec quelqu'un, quelqu'une, avant le mariage était méprisé, si les perceptions de notre société ne pensent plus que c'est quelque chose pénible ou quelque chose décevant ou quelque chose méchante, eh bien, qui es-tu pour me critiquer en fin de compte? Tu as ta moralité, j'ai la mienne, et il n'y a pas une question de moralité publique. Donc, ça change ce que nous faisons dans notre société, ça change comment agissent les lois, comment agit la confiance dans ma parole, par exemple. Ça change les contrats entre les compagnies, ça change le système de justice, n'est-ce pas? Ça change tout. Et de plus en plus, ça change aussi ce que nous comprenons par l'apologétique. Nous y reviendrons encore une fois samedi. Mais autrefois, l'apologétique chrétienne voulait convaincre le monde que l'Évangile, c'est la vérité. Jésus-Christ est ressuscité d'entre la mort. Il est Dieu. Et si vous acceptez ces faits, vous êtes prêt donc à devenir chrétien, n'est-ce pas? Donc il faut souligner surtout les faits du christianisme, la vérité du christianisme. Et ensuite, vous êtes prêt à devenir chrétien. Donc, notre apologétique était basée, en fin de compte, sur la nécessité de convaincre le monde de la vérité ou de la moralité ou des faits du christianisme public. Mais si le monde commence à penser qu'en réalité, il n'y a pas de faits publics, il n'y a pas de moralité publique, il n'y a pas de vérité publique, mais ce qui est vrai pour vous les chrétiens, tout d'un coup, comment adapter notre apologétique, comment faire l'évangélisation, comment commencer même. Et cela souligne aussi les développements dans nos connaissances publiques, surtout ici en Europe, où le monde est tellement illettré du point de vue de ce que dit la Bible aujourd'hui, que nous ne pouvons plus présupposer que le monde utilisait même les mots bibliques d'une façon que je les utilise. Par exemple, grâce, justice, foi, Dieu, vérité, esprit, repentance, péché, enfer, et ainsi de suite. Que signifient-ils ces mots pour un étudiant à la Sorbonne aujourd'hui? Ou un cultivateur tout près de Marseille, qui est illettré du point de vue biblique. Qu'est-ce que ces mots utilisent? Donc, où est-ce qu'on doit commencer dans notre évangélisation, quand même les mots les plus élémentaires sont utilisés d'une façon tellement différente de ce qu'on trouve dans la Bible ou dans notre façon de parler, que des fois il semble que nous nous dépassons sans rien comprendre de l'autre côté, n'est-ce pas? Il y a un an et demi, qu'on m'a invité d'apparaître sur le programme de télévision Larry King Live. De temps en temps, ils veulent avoir une tête évangélique qui parle. Et j'étais la tête évangélique qui parle à cette occasion, et j'étais à Chicago, et Larry King, lui, il était à Washington ou Atlanta, je ne sais pas, et l'autre personne qui devait apparaître était à Los Angeles. Vous savez, il y a une tête ici, une autre tête là sur l'écran, et tout ce que je vois dans le studio, c'est tout simplement la caméra devant moi. Et c'était quelque chose qui était arrivé au dernier moment, tout simplement. Donc, ils ont envoyé une voiture, limousine, une voiture de louage pour me chercher. Ça n'arrive pas bien souvent, mais c'était assez agréable. Et en descendant au studio, j'étais tellement occupé. Je lisais des papiers, je ne voulais pas apparaître comme un grand fou sur la télévision nationale. Et donc, je n'ai pas jasé du tout avec le chauffeur. Mais après le programme, c'était le temps de revenir et j'ai commencé à parler avec le chauffeur et j'ai découvert qu'il était un juif. Âgé de 59 ans. Ses parents ont perdu leur vie dans l'Holocauste. Lui-même, il était divorcé et il s'est remarié avec une jeune femme de 29 ans. Et il avait une fille de 33 ans qui s'était mariée tout dernièrement à Kansas. Et maintenant, elle était au point de mourir. Elle avait subi un accident automobile. Son cerveau ne fonctionnait plus. C'était tout simplement on attendait le temps où il fallait pull the plug. Il fallait tout simplement débrancher. Et je lui ai posé la question. Comment est-ce que Tu subis cela? Comment voir cela? Oh, il a dit, j'ai décidé que les atomes sautent, les atomes bougent, il n'y a rien que je peux faire. C'est la vie, c'est la mort. Donc, je lui ai dit, pareil comme l'Holocauste, n'est-ce pas? Les atomes bougent, les atomes sautent, il n'y a rien qu'on peut faire. Oh, il était fâché. Et je voulais qu'il soit fâché. Oh, ça, c'était le grand méchant, c'était épouvantable. On ne peut pas exprimer comment c'était cruel et méchant. Comment dire que c'était tout simplement les effets naturels? Donc, je lui ai dit, donc tu as une place pour être outragé par l'Holocauste, mais pas par la mort de ta fille? Puis, il a répondu, tu veux dire donc que la mort de ma fille est quelque chose de méchante? Et j'ai dit, certes. La Bible nous enseigne que c'est le dernier ennemi et que la mort n'est pas comme ça doit être. La mort n'est pas naturelle. La mort, c'est le résultat de rébellion, de ce que la Bible dit, le péché. Pas parce que ta fille était plus maligne que toute autre personne. Non, 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 non. Nous allons tous mourir. Mais il faut être outragé par la mort. Ce n'est pas naturel. Du point de vue biblique, du point de vue de Dieu, la raison pour laquelle nous sommes tellement outragés par la mort, ou nous devrions être outragés par la mort, c'est parce que nous sommes créés pour l'éternité. Donc, je lui ai posé la question. Supposons que tu croyais qu'après la mort, il y a encore la vie. Est-ce que tu verrais la mort de ta fille d'une autre façon? Puis il a répondu, Oh, je sais exactement de quoi tu parles maintenant, il dit. Ma fille avait un beau jardin. Et je suis persuadé qu'elle voudrait revenir comme un papillon. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des mondes différents ici, n'est-ce pas? Je parlais de la résurrection, de l'immortalité, de la connaissance de Dieu. Et lui, il parlait de papillons. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un monde tellement illettré du point de vue biblique, qu'il faut poser la question, où commencer? Comment parler de ces choses quand il y a, non pas tout simplement un monde différent d'un autre, mais des mondes différents d'un autre? Et aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement un monde illettré du point de vue biblique, mais un monde des fois musulman, un monde séculaire, ou un monde spirituel, mais je ne sais pas ce que ça veut dire dans des cas différents, ou un monde païen, véritablement païen, avec des religions païennes, et tout d'un coup ça change tout, n'est-ce pas? Donc, notre apologétique change de plus en plus parce que tous ces mondes ont leur propre indépendance. Comment dire qu'un monde est mieux, est meilleur qu'un autre sans donner l'apparence de l'orgueil? Eh bien, l'Église émergente s'aperçoit que ces développements dans le monde culturel, ce mouvement du monde moderniste au monde postmoderne, exige qu'on crée dans l'assemblée, dans les églises, une apologétique, une structure, une église, une approche elle-même postmoderne. C'est-à-dire la culture émergente exige une église émergente. Les jeunes, en général, sont plus sensibles, par exemple, à l'écologie que leurs parents, en général. Au malin de colonialisme, de l'impérialisme. Et tout d'un coup, ces développements dans la culture exigent une église émergente. Ça, c'est l'idée. Donc, ça veut dire que le mouvement de l'Église postmoderne souligne les affections, souligne l'expérience contre la vérité, souligne la patience et l'inclusion, pas l'exclusion, c'est-à-dire il faut tous admettre, en effet. Et ensuite, il ne faut pas les rejeter à cause de prétentions de vérité, parce qu'après tout, leur vérité peut-être n'est pas la nôtre. Il ne faut pas dire aux autres qu'ils sont méchants, ou qu'ils sont éloignés, ou qu'ils se trompent, parce que de leur point de vue, ils ne se trompent pas. Ils ne sont pas éloignés, ils ont leur propre vérité. Et peut-être après un bout de temps, ils vont être attrayés par notre vision de vérité, peut-être. Donc, il faut être positif en ce qui concerne notre vision de vérité, mais il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas la vérité. Après tout, peut-être ils ont une portion de vérité, ou au moins, ils ont leur vérité. Comment donc les mépriser? La participation est importante. Et en effet, ce qu'il faut donner, c'est notre narratif personnel, Nous parlons de notre expérience, ils parlent de leurs expériences, et peut-être ils vont être attraits à notre narratif pour se joindre à nous dans notre narratif spirituel chrétien. Et ils vont devenir, par la participation, par l'inclusion des chrétiens eux-mêmes. Eh bien, avant d'essayer une analyse de ce mouvement, soit positif, soit négatif, et ça prend les deux, je veux parler davantage des racines de postmodernisme, des racines allemandes, françaises et américaines. Et ces racines expliquent en réalité pourquoi le monde postmoderne ou le monde postmodernisme lui-même n'est pas utilisé dans chaque pays d'une façon d'identité avec l'utilisation qu'on trouve ailleurs. Dans le monde allemand, les racines sont surtout herméneutiques. Comment interpréter de quoi? Comment interpréter? Autrefois, dans le 19e siècle, l'herméneutique était l'étude de comment bien interpréter soit la Bible, soit d'autres textes. Et déjà, dans un institut comme IBG, sans doute, vous avez des cours d'herméneutique ici, sans doute? Comment comprendre une métaphore? Comment comprendre l'utilisation de l'Ancien Testament dans le Nouveau? Comment comprendre une parabole? Comment mettre ensemble les utilisations différentes de plusieurs mots ou concepts qu'on trouve à travers la Bible? Comment, en effet, interpréter la Bible? Ça, c'est l'herméneutique qu'on apprend dans des instituts bibliques comme IBG, n'est-ce pas? C'est un sens d'herméneutique qu'on trouve dans le 19e siècle. Mais déjà dans le 20e siècle, c'était pas mal renversé. On trouve déjà des livres publiés dans le 20e siècle par des évangéliques qui maintiennent, en effet, la position du 19e siècle, mais cette position présuppose, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose là-bas, l'objet, qu'il faut interpréter. Et ça présuppose le sujet, moi, l'interpréteur, le je, n'est-ce pas? Voilà le monde moderniste. Le je doit interpréter l'objet. Le sujet doit interpréter l'objet. Et le point de tout cela, c'est d'avoir des règles, des méthodes, des présupposés dans la définition de métaphores, de paraboles, des connaissances publiques et scientifiques et objectives, n'est-ce pas? Et si on a ces connaissances, si on a la bonne herméneutique, nous allons avoir la bonne interprétation. Même il y a des écoles bibliques et des séminaires et ainsi de suite qui disent en effet que ce n'est pas besoin, on n'a pas besoin d'étudier la théologie historique parce que si nous avons la bonne herméneutique, ça ne fait rien ce que pensait Calvin ou Thomas d'Aquin ou Irénée, parce qu'après tout, ils avaient leur herméneutique. Si nous avons la bonne herméneutique, nous allons tous découvrir la bonne vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas, ce qui est véritablement vrai. Nous allons le découvrir. On n'a pas besoin de la théologie historique, donc on a tout simplement besoin de l'herméneutique publique, non disputable, objectif. Mais dans le 20e siècle, surtout en Allemagne, cette présupposée de ce que c'est l'herméneutique a changé pas mal. surtout parmi des érudits comme Fuchs et Aibling et d'autres dans 1930, 1940 et plus tard. On parlait du cercle herméneutique. L'autre manière de parler faisait une grande différence entre le sujet et l'objet. L'objet était là pour être découvert. Et le sujet, c'est moi, et si j'ai la bonne herméneutique, je vais découvrir la vérité dans l'objet. Mais tout d'un coup, je me rends compte du fait que le moi, le sujet, se trouve dans une certaine période d'histoire, avec un certain arrière-plan, avec une certaine race, avec plusieurs présupposés. Donc, je ne suis pas moi-même bien basé, je suis moi-même liquide. Donc, je m'approche du texte avec plusieurs présupposés, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si je m'approche avec une question directe et j'attends une réponse directe, c'est plutôt que je touche le texte en passant, pour ainsi dire, d'un certain point de vue. Et donc, la réponse que je reçois dans ce modèle est une réponse qui revient d'un certain angle, en effet, qui me change un peu. Ça me touche. J'entends la réponse du texte déjà donnée, en effet, par la forme de ma question, et j'attends cette question parce que je suis ouvert à plusieurs réponses et je ne suis pas ouvert à d'autres réponses. Et donc, je suis ouvert à quelques réponses que j'attends, que j'apprécie et qui me touchent, qui me changent. Et donc, la deuxième fois que je m'approche du texte avec une autre série de questions, ce sont les questions d'une personne qui avait été changée par les premières séries de réponses. Et donc, les réponses que je reçois maintenant sont établies par les questions que j'avais adressées au texte, et donc ça devient un herméneutique du cercle, n'est-ce pas? On fait le tour, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Il n'y a pas de moyen de s'échapper de ce cercle. Le cercle est déjà présupposé par le donné du « je » et la donnée du texte. Donc, il y a des questions que je ne peux pas imaginer que je poserais à ce texte, et des réponses qui sont inconcevables, en effet. Mais quand même, il n'y a pas de réponse objective, publique, universelle, transculturelle, transhistorique, mais des réponses, tout simplement, qui sont présupposées par ce que je suis, par les réponses que je pose, par les questions que je pose, les réponses que je peux entendre. Et donc, tout d'un coup, l'herméneutique ne devient pas une méthode du modernisme qui m'enseigne comment découvrir la vérité, mais en réalité, ça devient une méthode du postmodernisme qui m'enseigne comment vivre et comprendre ma vérité. Ça nous instruit comment nous allons comprendre quelques textes ou quelques objets. Et une autre personne avec d'autres questions, une autre arrière-plan, il va poser la même question d'une autre façon, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas surprenant, disent les spécialistes allemands. Ce n'est pas surprenant qu'il y a des positions théologiques différentes dans l'Église. Il y a des libéraux, il y a des conservateurs, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des luthérans, il y a toutes sortes de positions nécessairement parce que nous sommes des individus, n'est-ce pas? Maintenant, pour être... c'est le temps pour la pause, n'est-ce pas? Oui, c'est le temps pour la pause et nous reviendrons aux Français et aux Américains avant d'essayer de de répondre un peu.